parler en français aujourd'hui, puisque après tout je suis en France. Merci de m'avoir invité. Je voudrais reprendre un peu et construire sur ce que Hervé vient d'exprimer, en apportant malgré tout quelques bémols, ce qui nous permettra un petit débat au moins, sur certains aspects de sa présentation, car je crois que nous différons sur un ou deux petits points mineurs, d'ailleurs pour l'ensemble je suis d'accord. Effectivement, le monde des publications savantes, scientifiques ou dans les sciences humaines et sociales, est un monde très très particulier. Et si je reprends l'ensemble des réunions de cette conférence, il me semble que l'un des thèmes qui ne cesse d'émerger, c'est que la thèse que l'on exprime en anglais par la formule « one size fits all » ne fonctionne vraiment pas dans ce cas-là. Il se trouve qu'ici, il n'y a pas de problème de relation entre producteurs et consommateurs, car les deux communautés, en fait, sont identiques. Ce sont « je publie et je lis les articles de mes collègues qui publient et qui, etc. » lisent mes articles en nous endormant les uns les autres avec nos petits discours. La première chose à voir aussi là-dedans, c'est que ce modèle s'est élaboré historiquement dans un cercle relativement restreint et, il faut le dire, je crois, assez élitiste. Les historiens des sciences ont bien montré qu'au XVIIe siècle en Angleterre, le développement de ce que l'on appelle la révolution scientifique s'est fait en Angleterre comme en France d'ailleurs, parmi soit les gentlemen, ou les gens bien placés dans la société, ou ceux qui aspiraient à faire partie de cette sorte de sous-ensemble de la République des lettres. Cela dit, malgré tout, il faut garder aussi en tête un élément tout à fait essentiel de cette communauté particulière, qui est qu'on veut travailler dans une relation qui, je crois, est complètement nouvelle et qui, à mon sens, se décrit le mieux avec l'expression d'intelligence répartie ou distribuée. L'idée, c'est effectivement d'apporter sa pierre à un édifice qui ne se construit pas d'ailleurs linéairement. Un édifice qui est partiellement rasé périodiquement par ce que les épistémologues appelleraient une refonte paradigmatique, mais qui malgré tout travaille dans cet échange constant entre personnes réparties, distribuées dans le temps et dans l'espace, créant ainsi une espèce d'immense dialogue entre esprits séparés à travers le temps et l'espace. Si cette vision est maintenue, cela veut dire que tout obstacle, tout frein à la circulation des idées, des résultats de recherche, des thèses, des hypothèses qui ont pu être créées à droite et à gauche constitue en fait une perte pour la productivité générale de ce réseau d'intelligence distribuée. À l'origine, la communication des résultats de recherche se faisait largement sur la base d'institutions de recherche. C'était ces nouvelles institutions qui se développaient au XVIIe siècle, puisque les universités, bien entendu, c'est un peu la tradition des universités, n'arrivaient pas à comprendre ce qu'est que leur propre époque. Hein. Les universités travaillent toujours sur une image du passé et une image passéiste d'elles-mêmes. Et donc, les académies sont nées un peu en compensation de cette situation. Et les académies se sont mises, bien entendu, à diffuser par imprimé, en inventant d'ailleurs la revue scientifique de type moderne, se sont mises à diffuser les résultats de recherche qui naissaient en leur sein. Il y avait un filtrage. Tout ce qui se disait à l'intérieur de l'Académie royale des sciences de Paris apparaît dans l'histoire de l'Académie, mais n'apparaît pas dans les mémoires. De la même façon, dans les Philosophical Transactions of the Royal Society of London, tout ce qui se faisait à l'intérieur de la Société royale n'était pas imprimé. Ces institutions, grosso modo, évidemment, maintenaient une sorte de modèle commercial, mais totalement factice, en fait, puisqu'en gros, ce qu'ils faisaient, c'était du troc. Ils envoyaient à d'autres institutions du même genre un exemplaire de leur revue, avec l'espoir d'obtenir en échange quelque chose d'équivalent, si bien qu'avec une seule revue, on pouvait monter une bibliothèque. Le modèle mériterait d'ailleurs d'être visité, je crois, au XXIe siècle. Ça permettrait, je crois, de gagner beaucoup de temps et d'argent si on fonctionnait sur cette base-là. Il y aurait des problèmes à le faire, qui sont des problèmes, effectivement, d'évaluation par les pairs, mais cette petite remarque me permet d'aborder justement cette question-là. Quand on parle dans cette conférence d'intermédiaires, ici les éditeurs et ainsi de suite, on a l'impression qu'il y a une sorte de médiation relativement stable qui a toujours existé en science pour la publication scientifique. Ma thèse, c'est que c'est pas du tout le cas. C'est que, oui, il y a une médiation qui est restée stable, mais le contenu et même les formes de cette médiation se sont silencieusement, mais fondamentalement transformées. Je ne prendrai qu'un seul exemple de ce genre de transformation. C'est que, au détour de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'avant la guerre, l'essentiel des publications scientifiques était assuré par des sociétés savantes, elles-mêmes avaient succédé aux académies comme relais de cette médiation, donc il y avait déjà eu au moins une grande transformation au XIXe siècle, mais il y en a une autre qui se fait autour de la Seconde Guerre mondiale, et cette deuxième mutation prend la forme, en fait, de l'intervention forte, dominante bientôt, d'éditeurs scientifiques commerciaux. Cette prise de pied des éditeurs commerciaux dans l'édition scientifique a nécessité de leur part l'invention de certaines tactiques pour y arriver. Une d'entre elles a été la révision du système d'évaluation par les pairs. Dans les revues classiques des éditions des sociétés savantes, tout se faisait un peu, disons-le, à la bonne franquette. Un comité éditorial recevait des articles, soit directement d'individus qui étaient reconnus comme étant des leaders dans leur domaine, et on publiait. Quand Einstein envoyait un article à une revue de physique, c'était évident qu'on ne refusait pas l'article d'Einstein. Mais si Einstein envoyait l'article de quelqu'un d'autre en disant « je crois que ça vaut la peine d'être publié », on publiait. Donc il y avait une espèce de relais, on appellerait ça en anglais un « old boy network », c'était en fait une espèce de système informel de cooptation, où quelque chose comme une évaluation par les pairs extrêmement subjective, qui en fait ne faisait que renforcer les tendances à certaines formes de hiérarchisation entre individus, qui se maintenaient de cette façon-là. Lorsque, en particulier, Robert Maxwell a voulu commencer à imposer ses revues internationales de n'importe quoi, il en a publié 700 à peu près de ce genre, il a décidé de montrer que lui, il avait des revues qui tenaient la route parce qu'elles détenaient un nouveau principe d'évaluation par les pairs. C'était fait objectivement, on envoyait ça à deux ou trois personnes, c'était réellement quelque chose de sérieux, pas ce genre de truc de vieux club d'amateurs dans un coin. C'était du travail bien ficelé. Ça a permis, à ce moment-là, Robert Maxwell, de faire entrer ses revues dans un cercle privilégié de revues, les revues qui pouvaient se faire repérer dans le grand système de hiérarchisation moderne des revues, qui est celui du Science Citation Index, avec l'association de l'impact factor, le facteur d'impact, qui est en fait une manière de mesurer le nombre de citations moyennes que reçoivent les articles d'une revue évaluée sur une période de deux ans après la publication de cette revue. Donc on a un système de médiation effectivement qui est en place, mais ce système de médiation, il serait complètement faux de le voir comme statique, éternel, bien établi, et ainsi de suite. Il n'y a pas de fétichisation à faire de cette médiation. Elle change dans le temps, elle incorpore de nouveaux acteurs, et actuellement elle est dominée par un ensemble de grands acteurs commerciaux qui n'ont en fait aucune légitimité dans ce circuit-là, et qui extrait du circuit économique que Hervé nous a fort bien décrit, extrait effectivement des profits tout à fait étonnants. La manière générale que j'ai de décrire cette situation-là, c'est de dire que les compagnies privées, comme Elsevier, ont trouvé un moyen de taxer des gouvernements, puisque c'est de l'argent public qui produit les recherches, c'est de l'argent public par les bibliothèques qui rachètent les recherches, et au milieu, on a cette médiation tout à fait perverse qui permet d'extraire un profit important. Et en plus, il y a un rôle extrêmement néfaste, parce que, étant donné les ressources financières de ces grandes compagnies, ce sont à peu près les seuls ensembles qui ont les moyens de produire de nouvelles revues. Donc elles décident quels sont les champs scientifiques où on va apporter un plus de communication en ouvrant cette nouvelle revue dans le domaine X. Immédiatement, on ouvre des postes pour ce qu'on appelle en bon français des gatekeepers, des gardiens de barrières. Bien sûr, ces gens-là ne sont pas nommés ne sont pas nommés directement par les maisons d'édition parce que ça ferait perdre toute légitimité à l'opération, mais il y a quand même des circuits informels de communication qui font qu'on va aborder tel personnage plutôt que tel autre parce que non seulement il est bon, mais aussi il va être un bon joueur avec la maison d'édition. Donc il y a tout.